Il est 9h40 et l'instant M est de retour dans vos oreilles.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
On peut fouiller les tréfonds du fait divers, en exhumer les ressorts psycho-socio-politiques. Cela ne nous dira pas pourquoi nous aimons cela. Pourquoi nous les lisons, nous les regardons, nous les racontons jusqu'à plus soif, parfois un siècle après les faits. Des petits faits, pourtant, sidérants, certes, mais loin d'être historiques. Cela ne nous dit pas non plus comment le fait divers se vide instantanément de son sang et de sa chair pour qu'on puisse le ressasser médiatiquement sans souffrir et sans pleurer. Bonjour Mara Goyer.
Bonjour.
Mara Goyer.
C'est une contrepétrie, en effet.
Ouais, exactement. Toutes ces questions, vous vous les êtes posées sur France Culture d'abord, puis la chronique s'est transformée en livre sous le charme du fait divers. C'est paru tout récemment chez Stock. Alors c'est parti pour les petits meurtres en série. D'abord, c'est lundi. Bruno Donnet, ça va Bruno ?
Oui, guerre à mouiller.
Ça recommence la contre-pétrie, voilà. Alors les journalistes aussi, ils ressassent, mais moins qu'on croit.
L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Did you know that the European Union has 23 official languages? 23!
Ah, that's amazing, Jean-Paul. But to help you better understand the European Union, I have cleverly...
Retour inattendu, vendredi soir, à la télévision britannique, en plein débat sur le Brexit et plébiscité par les réseaux sociaux qui étaient pliés en quatre. Le tandem Antoine Decaune, Jean-Paul Gaultier a remis le couvert d'Eurotrash, magazine culte diffusé sur Channel 4, mais interrompu depuis 1997, ça faisait un bail. Alors maintenant, ils ont les cheveux blancs, mais ils sont toujours aussi délurés et délirants. Sur le site de la chaîne, une mise en garde que je vous lis façon Antoine Decaune. String languages, full frontal nudity, saucy adult humor and sexual themes. Bref, shocking. Bruno Donnet, voilà. Vous avez envie de regarder Eurotrash ?
Oui ? Pas du tout.
Pas du tout. Vous parlez anglais ?
Couramment.
C'est ça, mieux que moi. Jeudi dernier, vous avez regardé le petit journal de Canal où il était une nouvelle fois question de Jean-Yves Le Drian. Et ça vous a donné envie de nous parler d'une valeur plutôt rare à la télé, l'opiniâtreté.
Oui Sonia, l'opiniâtreté, vous savez ce que c'est. Hein, c'est l'expression élégante de la ténacité ou, si vous préférez, l'art de ne jamais lâcher le morceau. Et il se trouve qu'entre le petit journal et Jean-Yves Le Drian, notre ministre de la Défense qui cumule sa fonction avec celle de président de la région Bretagne, une grande histoire s'est nouée à cause de cette petite déclaration du candidat Hollande.
Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leur fonction avec un mandat local.
Depuis des mois, le petit journal colle donc littéralement au basque du président de région ministre pour lui demander des comptes au sujet de son cumul, mais Le Drian refuse systématiquement de répondre.
Monsieur Le Drian, bonjour.
Ça va bien ?
On peut discuter 5 minutes ?
Ah, pas du tout, non.
Voilà, ça a commencé cet hiver, plutôt cordialement. Ça s'est poursuivi sur un ton relativement badin, Le Drian tentant d'ironiser sur la passion qu'entretenait le petit journal à son endroit.
J'ai en ce moment 3 activités. Je suis président de la région, ministre de la Défense et je suis animateur au petit journal. Je fais les émissions tous les jours. Ouais.
Et puis, ça a fini par sérieusement gonfler le président ministre qui, jeudi dernier, alors qu'il visitait le salon des marchands d'arbres, des marchands d'armes et pas d'arbres.
C'était joli.
Sous l'œil de toute la presse qu'il avait spécialement conviée pour l'événement, a dit, en apercevant la caméra du petit journal, « Je les emmerde, sic ». Une petite phrase qui a fait dire au reporter de l'émission, Hugo Clément, ceci.
Le ministre, visiblement, ne supporte pas notre présence.
Voilà. Alors, c'est pas qu'il ne la supporte pas, c'est qu'il ne la supporte plus. Et je vous dois un aveu, chère Sonia, en entendant Yann Barthès et son reporter s'amuser pour la énième fois sur leur plateau du cumul de Jean-Yves Le Drian.
Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense
et président de la région Bretagne.
J'ai commencé par ressentir un peu la même chose. Je me suis dit, ras-le-bol de Le Drian, on a bien compris que c'était pas beau de cumuler, il serait peut-être temps de le lâcher. Seulement voilà, en découvrant le reportage d'Hugo Clément, en voyant l'attitude pathétique de l'attaché de presse du ministre breton dire n'importe quoi dans son micro pour tenter de saboter son travail...
Il va faire quoi sur
téléphone,
Yann Barthès ?
Et en l'entendant s'emporter...
Non, les caméras, on va toutes les enlever, toutes.
Les caméras, on va toutes les enlever, qu'elle dit, et en entendant surtout un journaliste d'une autre chaîne lui répondre ceci.
Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont été très corrects.
Sous-entendu, exception faite du petit journal, tous les journalistes foutent une paire royale au ministre Cumulard. J'ai réalisé combien l'opiniâtreté de Yann Barthès et de ses camarades était devenue rare et donc précieuse. Car oui, à la télévision, les journalistes sont souvent des gens très bien élevés qui filment là où on leur dit de filmer, qui posent parfois des questions embarrassantes, mais qui, lorsqu'ils n'obtiennent pas de réponse, passent à autre chose par peur de l'acharnement, du ridicule ou des deux à la fois. Le petit journal n'a peur ni de l'un ni de l'autre. C'est comme ça qu'il a dépoussiéré le traitement de la politique à la télé. Alors, on espère une seule chose, c'est qu'il continue sur TF1 de poursuivre Le Drian de ses assiduités jusqu'à ce qu'il démissionne de l'un de ses mandats ou qu'il nous explique enfin comment on peut diriger les armées d'un pays en état d'urgence qui vit sous la menace permanente des attentats tout en présidant une région qui compte un peu plus de 3 millions d'habitants.
Voilà. Et il n'y avait pas Coluche qui avait une petite phrase ?
Si, il disait « Les émissions politiques, c'est facile, le journaliste pose une question, l'homme politique répond pas et on passe à une autre. »
Voilà. Merci Bruno Donnet. Allez, étrangleuses, escrocs, empoisonneuses et ogres en tout genre, unissez-vous.
Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Alors, sous le charme du fait divers, des faits divers, Mara Goyet, c'est votre ouvrage qui vient de paraître chez Stock. C'est un conseil de lecture pour l'été qui arrive, parce que vous allez voir, dans les deux prochaines semaines, nos deux dernières semaines d'émission, vous allez voir qu'une émission média peut vous faire lire des textes assez étonnants pendant les vacances. Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?
Il n'y a pas de machine à écrire. Il y a un revolver, un modèle baby, un petit modèle. Il est là depuis 4 jours, par terre, au milieu d'une petite flaque rouge. La maison du docteur Brown est grande, mais peu de choses y vivent encore. Régulièrement, le téléphone y sonne dans le silence, et de temps en temps, un épagneul gratte à la porte de la cave en gémissant.
Il n'y a, Mara Goyet, que chez Pierre Belmar qu'on dit peu de choses. Ils vivent encore. Hein, oui. Cette attention,
c'est magnifique.
Parce que les choses sont vivantes.
Le téléphone qui sonne seul, c'est magnifique.
Voilà,
l'épagneul qui gratte, c'est magnifique. Pierre Belmar est magnifique.
Et vous lui rendez un vibrant hommage, assez étonnant d'ailleurs, car vous expliquez bien que l'attention portée à l'objet, c'est la clé de voûte du fait divers, mais c'est aussi la clé de voûte de l'œuvre, non pas de la carrière, de l'œuvre, dites-vous, de Pierre Belmar.
Mais oui, il est passé du monde du crime, du fait divers, à celui du téléachat. Alors, certains se sont dit, il s'est égaré. Je ne pense pas du tout. Je pense qu'il y a une continuité dans cette sorte de promotion absurde, surréaliste et géniale de l'objet. Voilà, d'un objet qui n'est rien, qui parfois ne sert à rien, comme dans le téléachat. On fait une star, on fait une vedette.
C'est ça, c'est le triomphe.
C'est le triomphe de l'objet, le fait divers comme le téléachat.
Voilà, et alors vous faites une sorte de recension de ces objets qui sont parvenus à la célébrité. Le congélateur, évidemment, qui dit congélateur, dit bébé. Le pic à glace, la clé à molette, le piolet, Trotsky. Bref, vous dites, ce sont des objets belmarisés qui sont entrés au Panthéon de la terreur. Sauf que ces objets, ils sont très particuliers parce qu'on les trouve dans n'importe quel Leroy Merlin.
Oui, on les trouve et on passe à côté pendant des années sans presque les regarder. Et puis un jour, ils sont au cœur d'un fait divers. Et là, ça devient vraiment des stars. Ils prennent une dimension métaphysique et morbide complètement inédite. C'est ça qui est complètement étonnant avec les objets dans les faits divers.
Alors, il y a les objets et puis il y a les lieux. Et là aussi, vous en faites une analyse étonnante. Vous dites, le fait divers, c'est le droit du sol.
Oui, c'est le droit du sol, c'est un service de proximité, on va dire. On est dans un univers mondialisé, globalisé, et lui, le fait divers, résiste à ce mouvement. Il est assez archaïque, il est assez traditionnel, sans être réactionnaire quand même. Par exemple, on redécouvre le virage de Chevaline, le cours de la Vologne. C'est vraiment la géographie du 19e siècle, le fait divers.
Et surtout, ça ne vaut que si c'est arrivé près de chez vous.
Oui, parce que, par exemple, un fait divers incroyable qui se passe en Malaisie, on se dit, c'est incroyable, mais c'est exotique, donc c'est normal.
C'est ce qu'on appelle de l'insolite, en fait,
voilà,
dans les médias.
Voilà, c'est l'insolite, donc c'est juste sympathique et on pense à autre chose. En revanche, quelque chose de plus anodin, un mulot dans une boîte de conserve à 20 km de chez vous, là, c'est un traumatisme tout à fait particulier. Voilà, le fait divers est un service de proximité, ça doit être arrivé près de chez vous, comme le dit si bien Benoît Poulvord.
Voilà, et alors comme vous le dites, les grands mouvements sont faits de petits instants, de petits éléments, de petits instruments, de dates, de lieux, de noms, de termes techniques. Je vous propose qu'on écoute un extrait de la conférence de presse que François Molins, le procureur de Paris, a donné, qui a été retransmise par toutes les chaînes d'info après les attentats du 13 novembre. Et on va très très bien comprendre, non pas pourquoi un attentat est un fait divers, au contraire, un attentat n'est pas un fait divers, mais qu'est-ce qui les rapproche en termes de traitement de l'actualité ?
Il apparaît que les 7 terroristes ont tous fait usage d'armes de guerre de type Kalachnikov, des fusils d'assaut donc de type Kalachnikov, calibre 7,62. On retrouve sur chacun des terroristes un gilet d'explosifs portant du TATP, donc qui est un explosif, je vous le rappelle, primaire, très volatile, constitué de peroxyde d'azote, et un dispositif constitué de piles, les mêmes détonateurs, sous forme de boutons poussoirs, et pour les kamikazes du Stade de France, des boulons. S'agissant des véhicules utilisés lors de la commission de ces attentats, un véhicule Seat, je vous l'ai dit, de couleur noire, et un véhicule Polo, lui aussi de couleur noire, immatriculé en Belgique. Nous savons que ce véhicule a été loué par un individu de nationalité française résidente en Belgique.
Alors un mot d'abord, Mara Goyer, vous le dites très bien. Après un attentat, le cours de l'histoire s'interrompt, on dit plus jamais ça. Après un fait divers, on peut être complètement sidéré, horrifié, choqué bien entendu, mais la vie continue.
Oui, la vie continue, c'est... Un fait divers, c'est une sorte de déflagration dans de la banalité, mais très vite, ensuite, la banalité reprend son cours. Alors, il reste uniquement, non vraiment des traumatismes, mais des scories des faits divers. Mm-hmm. Voilà, le congélateur, la Vologne, ce sont des scories. Tandis que des attentats, oui, ça interrompt le cours de l'histoire.
Vraiment. Voilà, et en même temps, vous faites une remarque, à mon avis, très pertinente dans votre ouvrage. Vous dites que les chaînes d'infos continues participent intensément à la fait diversification du monde.
Oui, et pas forcément pour des mauvaises raisons.
Non.
C'est-à-dire qu'après justement un attentat, nous n'avons pas les images et heureusement, chacun a du mal à appréhender l'événement tant c'est sidérant, terrible et apocalyptique. Et les chaînes d'infos en continu doivent garder l'antenne. Mm-hmm. Donc elles parlent de rien toute la journée puisqu'elles n'ont que quelques informations, très peu d'images. Du coup, elles nous montrent par exemple la façade d'une sandwicherie à côté du Bataclan, oui. 15 heures par jour. Et le spectateur... On vient à s'intéresser à la façade de la sandwicherie.
C'est ça, vous le dites, le gâteau marbré apporté à la rédaction de Charlie Hebdo, le chien, le petit cocker qui trottait pendant la tuerie, le pigeon qui crotte l'épaule du président pendant la marche. C'est-à-dire que chaque détail est ressassé de manière quasi obsessionnelle et en même temps sans affect. Quoi. On y revient en permanence.
Mais c'est pas indécent, c'est-à-dire non. Que je me suis beaucoup interrogée là-dessus. Pourquoi on se souvient par exemple du détail du petit chien qui trotte à Charlie Hebdo ? C'est parce que l'image nous échappe. Mais en même temps, on ne veut pas s'en détourner complètement. Et c'est un compromis entre l'abomination de la scène et la nécessité ou l'obligation pour nous, quand même, de ne pas détourner le regard et de ne pas penser à autre chose et de ne pas être futile. Donc l'objet, là où le chien, ou le détail, est un moyen minimal, miniaturisé, d'appréhender
les
attentats.
C'est ce que vous dites, voilà. C'est-à-dire que François Molins, finalement, il miniaturise avec ses longues litanies de dates, de lieux, d'objets, le bouton poussoir, etc. Il miniaturise quelque chose qui était tellement gigantesque qu'on ne pouvait même pas l'appréhender. Et ce qui est très intéressant dans la litanie qu'on vient d'entendre du procureur, c'est que l'individu qui a loué la voiture est mis exactement au même niveau que la Seat.
Oui, la nationalité, le calibre, la couleur de la voiture sont exactement au même niveau. C'est une sorte de grande litanie assez étrange, c'est un style très étrange, de détails qui nous est donné avec parfois des sortes de mots qui ressortent comme le bouton poussoir ou alors après à Saint-Denis il y a eu l'igloo végétal. Parfois il y a de la poésie dans ces accumulations de détails qui sont très étonnantes. Voilà les détails ou le fait divers, c'est des prises pour appréhender l'horreur.
Et alors justement, les gens, ça c'est passionnant aussi. Une fois le fait divers médiatisé, les gens qui l'ont vécu ou qui en sont les acteurs, ils tombent dans l'espace public, voire dans l'espace mythologique. Et vous dites, ils gagnent en célébrité ce qu'ils ont perdu en humanité. Finalement, ce ne sont plus des gens, ce ne sont plus des gens qui souffrent.
Oui,
sinon, on ne pourrait pas s'en emparer
figures,
comme ça.
Mais sinon, non seulement on ne pourrait pas, mais on serait des monstres. Voilà, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est que on ne doit pas avoir honte d'aimer les faits divers et qu'on n'aime pas les faits divers parce que nous sommes des gens
voyeurs,
malsains, crapoteux, dégueulasses. Ouais. Voilà, nous avons des bonnes raisons de les aimer. Et si nous les aimons, c'est parce que l'humain, dans le monde du fait divers, a un statut très particulier, très archaïque. Parfois, il prend moins de place et d'importance qu'un piolet ou qu'un congélateur.
C'est ça. Ou alors, il est mis exactement au même lieu.
Il y a l'enfant du petit Grégory.
Oui.
pour qui c'était une tragédie, puis la figure du petit Grégory. Voilà,
c'est qui est complètement désincarné, complètement
détaché de l'enfant lui-même, et heureusement.
Je vous propose d'écouter les voisins. Ils sont pareils. Dans le monde entier, ils sont pareils, les voisins, quand on les voit sur les chaînes d'infos en continu.
Il semblait calme, il ne buvait pas, il ne prenait pas de drogue, mais je crois qu'il souffrait de troubles obsessionnels compulsifs. Il était obsédé par son hygiène. Mais je n'ai jamais vu énervé, et il ne parlait vraiment jamais de politique.
Voilà, alors ça, ce sont les voisins du tueur de Joe Cox, vous savez, la députée en Angleterre. Et alors, il en sort toujours la même chose du témoignage des voisins.
Discours. D'abord, une chose très étonnante, c'est que les voisins s'expriment toujours de manière parfaite, structurée, avec tout ce qu'il faut comme comble, contradiction. Donc le voisin est toujours gentil, calme, posé. En gros, il n'a pas une arme à la main quand il descend ses poubelles. Mais cependant, on avait des relations distantes avec le voisin, manière de dire qu'on n'est pas complice. Et puis, il faut se montrer un peu impliqué. Il faut toujours rajouter que ses enfants, ses propres enfants, jouaient avec les enfants du voisin. Comme quoi, vraiment, ils ont failli y passer.
Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous montrez comment l'être humain... là, vous venez parler du petit Grégory. Bon, il y a évidemment l'épithète petit, mais comment l'être humain, du fait divers, finalement, il se fait pas un nom, mais il se fait un surnom. Alors, il y a les séquestrés de Poitiers, les reclus de Montflaquin, les possédés de Loudun, le routard du crime, c'était Francis Holm, le tueur de la vieille dame, le tueur de l'Est parisien, l'ogre des Ardennes, c'était Fourniret, je crois, le tueur à l'arbarète, la marquise au poisson, le cannibale japonais, le docteur Lucifer, etc., etc., etc. Donc voilà comment on déshumanise et en même temps comment on cristallise quelque chose.
Oui, ça devient une sorte de slogan ou d'appellation contrôlée. Il faut avoir un beau surnom. Alors le pire, c'est de ne pas avoir son propre surnom, d'être le nouveau Landru. Ça, c'est vraiment, ça c'est terrible. Déchéance.
Ça, c'est une déchéance. Et en même temps, le fait divers tient énormément à la manière dont il est formulé. On va dire que la formulation, et justement, quand on arrive à attraper ces slogans, ils sont formidables. On va dire que la formulation est aussi importante que le fait lui-même. Félix Fénéon, comment avez-vous exhumé Félix Fénéon ?
Je ne sais plus très bien. En lisant, il a quand même encore sa petite notoriété avec justement ses petites nouvelles en trois lignes. C'est un exercice de littérature brève.
Le matin, 1906.
Oui. Et dans lequel il écrivait des faits divers. C'était un art littéraire, l'annonce du fait divers. Ça ressemble beaucoup à des haïkus.
Je vous en lis un. À Oyonnax, virgule, Mademoiselle Cotet, virgule, 18 ans, a vitriolé Monsieur Bénard. Point. L'amour, virgule, naturellement. Point.
Oui, c'est magnifique.
C'est génial.
Ça sonne comme du Duras, d'ailleurs.
C'est ça. Et là, vous dites, finalement, on retrouve ces aplats de normalité, ces raccourcis... qui nécessite de mettre, comme vous le dites, tout au même niveau. Le sentiment, l'objet, l'acte,
il faut
les gens.
Tout au même niveau, mais il faut qu'il y ait un trouble dans la causalité. Il faut avoir le sentiment qu'il y ait de l'intelligence dans le fait divers.
C'est ça.
Alors c'est un monde complètement, sans Dieu, ni
transcendance,
vraiment, ni vraiment. Oui, non, mais il faut quand même qu'on ait l'impression que c'est trop beau pour être vrai, qu'il y a un comble, quelque chose de réjouissant dans le fait divers.
C'est ça, qu'il y a une sorte de petite.
Qu'il y a une fête gâchée, par exemple, ce fait divers que j'adore sur deux hommes qui décorent le sapin. Donc c'est un moment de joie, qui se disputent et qui s'entretuent. Voilà, ça, c'est le fait divers parfait.
Le sapin, on se dispute et on s'entretue. Bonjour Bruno Donnet. Non, bonjour.
Bonjour
Bruno
Duvic.
J'ai deux Bruno l'un à côté de l'autre. Donc Bruno Donnet, c'est fini. Maintenant, c'est le tour de Bruno Duvic.
Alors, est-ce qu'on en demande trop aux pompiers ? C'est la question du jour dans Un jour en France. Soldats du feu, mais aussi assistantes sociales. Ils interviennent sur des situations très graves, mais aussi parfois pour des broutilles, à tel point que certaines interventions sont payantes dans des départements. Est-ce qu'on en demande trop aux pompiers ? 01 45 24 7000.
Voilà, ce sera Un jour en France et ce sera juste après les infos.